Monique Kirouac, vous avez été intéressée par un texte de Stéphane Bergeron qui traite d'architecture.
Oui, Baillargeon.
Ah, c'est Baillargeon. Oui, c'est oui. Le frère de l'autre.
Alors, comme je vous disais, en ligne...
L'autre qui était dans le devoir aussi, là, Normand.
Oui. Ouais. En ligne, vous pouvez admirer la future bibliothèque du centre de Saskatoon en Saskatchewan. Elle a belle allure esthétiquement avec sa géométrie inclinée qui évoque la forme traditionnelle d'un tipi et sa large entrée vitrée ouvrant sur des structures en bois qui évoque une habitation métisse. D'autres projections de l'intérieur proposent de vastes espaces ouverts, conviviaux, interconnectés, on l'imagine bien, tous baignés de lumière. Alors, ce magnifique équipement culturel de 12 000 mètres carrés, précisons que ça correspond au tiers de la surface de la Grande Bibliothèque de Montréal, coûtera environ 135 millions de dollars. Le bâtiment, conçu par la firme montréalaise Chevalier Morales, en partenariat avec Formline Architecture et Architecture 49, deux firmes de l'Ouest, sera inauguré en 1927.
En 1927?
Qu'est-ce que je dis? En 2027, pardon. C'est que dans ma tête, je me disais, il faut que je précise que ça devait être fini en 2026, mais ils ont dû modifier un petit peu les plans. Oh, je lève les yeux, Hélène, et je vois un cardinal rouge devant moi.
Oh, wow.
C'est magnifique à travers la neige blanche.
Bon, je comprends, ça doit être vraiment magnifique.
Oui, c'est tellement beau. Je suis toute émue. Je continue donc, c'est déjà très impressionnant, en plus de mon paysage, mais cette exceptionnelle coquille cache beaucoup plus. Voilà, certaines bibliothèques deviennent, par la force des pressions sociales, des tiers-lieux de refuge. Oui, pour les itinérants ou les personnes seules, par exemple. Alors, celle de Saskatoon, elle, a d'emblée été conçue comme un centre communautaire pour prendre en charge certains problèmes sociaux systématiques comme l'analphabétisme, l'isolement social et l'exclusion. Les documents de référence parlent d'un lieu de partage et de circulation des savoirs autochtones et occidentaux. Tous les espaces, sans exception, restent universellement accessibles, y compris en triporteur électrique. Il y a même une cuisine communautaire prévue. Ces choix sont le résultat de consultations publiques menées en 2021 et 2022, auxquelles ont participé des centaines de Saskatooniens, dont beaucoup de membres de la plus importante communauté autochtone urbaine au pays. Alors, on fait des concours depuis 20 ans et, évidemment, on veut faire de la bonne architecture. Mais on veut aussi que nos bâtiments soient fonctionnels, flexibles, bien intégrés au contexte social et urbain. Et je cite ici Stephen Chevalier, cofondateur de la firme Chevalier Morales. Cette firme, Hélène, a réalisé plusieurs bibliothèques au Québec ces dernières années, notamment à Drummondville, Mont-Laurier et Lachine. Mais c'est le premier projet où le livre n'est pas nécessairement au cœur du discours.
Ouais.
Ce lieu, l'équivalent, comme on le disait, de la Grande Bibliothèque de Montréal, a été conçu comme un vecteur de réconciliation. La Bibliothèque de Saskatoon est un projet pivot de la nouvelle architecture au Canada. Jean-Pierre Chupin est professeur d'architecture à l'Université de Montréal et n'en pense pas moins. Et c'est d'ailleurs lui qui a pointé vers l'exemple de Saskatoon à la fine pointe des changements en cours dans son domaine. Précisons que M. Chupin est titulaire de la chaire de recherche du Canada en architecture, concours et médiation de l'excellence. Il dirige le programme « Qualité de l'environnement bâti au Canada » lancé en pleine pandémie. Quel est l'objectif de ce vaste chantier? Bien s'interroger sur la notion courante de qualité pour élargir la perspective sur les constructions et les aménagements au-delà des critères esthétiques. Le programme est né du sentiment de plusieurs chercheurs que de nouvelles valeurs sont en train de transformer la représentation que les architectes, les urbanistes, les designers d'intérieur ou les paysagistes se font de leur métier et de leur rôle. toutes les disciplines de l'environnement bâti sont aux prises avec de nouvelles attentes. C'est intéressant de voir cette réconciliation, si je peux dire, ou cette conciliation de tous ces domaines liés à l'architecture, à la construction finalement.
Ensemble, on est toujours plus fort.
Ben, semble-t-il, et à penser peut-être un peu différemment. Le plan de travail quinquennal du programme de 2,5 millions de dollars échelonné jusqu'en 2027 occupe 14 universités canadiennes. Les institutions universitaires financent une partie des recherches et au total environ 70 chercheurs et autant d'organismes publics et privés participent à cette grande enquête nationale. À Montréal, l'École d'architecture de l'UdeM travaille sur le problème d'accessibilité universelle. Le constat de départ est sans appel. Les fameux prix d'excellence ne tiennent pas vraiment compte de ce critère en le reléguant au respect de quelques normes techniques.
Et pourtant,
on ne considère pas que l'accessibilité fait partie de la qualité, ce qui, selon M. Chuppé, est une absurdité. Ce constat a beaucoup perturbé le milieu de l'architecture. Il faut interpeller les organisateurs de prix et leur demander de mettre en place des critères pour mesurer le degré d'accessibilité des édifices. Il faut aussi rappeler qu'au Canada, 27 % de la population est directement touchée par une forme de handicap qui réduit la mobilité.
Ça en fait du monde.
Eh bien oui, c'est plus qu'un quart de la population. Du côté de l'Université McGill, on a reçu le mandat de réfléchir à la ville la nuit, royaume de communautés marginalisées, refuge des pratiques transgressives, espace de la fête et lieu de certains dangers et d'insécurité, y compris pour les itinérants. Plus on ouvre ce domaine, plus on se rend compte que c'est énorme. Finalement, du côté de l'Université Concordia, l'équipe est dirigée par une biologiste et elle s'intéresse à la diversité urbaine. Les enquêtes portent notamment sur l'effet des parcs et des zones plus naturelles sur les personnes âgées. Alors, la grande communauté est ainsi mobilisée pour repenser l'excellence en architecture et pour ce faire, elle inclut des représentants de groupes de citoyens, les villes et les associations traditionnellement chargées d'évaluer la qualité du bâti, y compris en décernant des prix. Alors, notre objectif est de faire bouger les lignes dans les écoles, ce qui est indispensable, nous dit le professeur Chuppin. Toutes les professions de l'environnement bâti doivent apprendre à travailler avec les citoyens et les usagers. Le programme va publier des feuilles en accès libre. Chaque équipe va faire des propositions concrètes pour faire évoluer les pratiques. Le professeur Chuppin souhaite que les cours pratiques suivent la mutation. Alors, il nous dit que l'essentiel des formations se fait dans les ateliers où les élèves en petits groupes apprennent au contact de professionnels. On se rend compte que tout cela tourne en circuit fermé, parfois avec des systèmes de valeurs datés. Donc, il faudra faire du ménage pour redonner une véritable actualité aux enseignements en architecture. Il y a une question qui se pose, en fait, la question des causes de cette transformation en cours. Il semblerait que la féminisation de la profession y est certainement pour quelque chose. Les architectes et urbanistes féministes pensent la ville autrement, ne serait-ce qu'avec un plus grand souci pour la sécurité des personnes. De plus, les préoccupations environnementales pèsent lourd et les mouvements en faveur de plus d'équité, de diversité et d'égalité traversent maintenant les disciplines du bâti, ne serait-ce que par les cohortes elles-mêmes, de plus en plus multiculturelles et internationales. Les étudiants, qui sont en majorité des étudiantes maintenant, comme dans beaucoup de disciplines, faut-il le mentionner, sont de plus en plus sensibles à la valeur sociale de ce qu'ils ont envie de produire. Les nouvelles cohortes ne veulent plus faire des choses qui relèvent du pur esthétisme. On nous cite les architectures à la Frank Gehry, un peu extraordinaires, qu'on a beaucoup vues depuis des années, mais qui qui peut-être ne correspondent plus, comme on peut le voir par cette future bibliothèque de Saskatoon, ne correspondent plus aux impératifs de notre société. Alors, vivement que l'on voit les différences, peut-être que les projets écoles reflètent un peu cette préoccupation que l'on avait, mais bon, faut-il encore qu'on ait suffisamment d'argent pour réaliser ces projets?
Absolument. Les architectes 3.0, on pourrait les qualifier comme ça?
À peu près, oui, tout à fait, Hélène.
Yvan?
Oui, puis il y a aussi un nouveau phénomène, c'est la population augmente en âge. Et j'ai vu ma mère essayer de traverser une rue, là, puis je pense qu'il faut repenser aussi en fonction de personnes qui non seulement ont des problèmes de mobilité, mais se meuvent de façon plus lente. Alors, il y a toute une autre façon de penser qu'il faut inculquer.
Merci. Merci, Monique.